Allez, vous avez reconnu le dernier mouvement du Sacre du Printemps, et d'ailleurs nous allons en parler un petit peu, parce que nous allons interviewer un pianiste et nous avons écouté Bertrand Chamaillot qui justement était dans ce concert du dimanche 22 où nous avons eu une magnifique interprétation du Sacre du Printemps. C'était l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par un jeune chef qu'on avait déjà eu il y a quelques années, qu'on a déjà eu en 2016 et qui s'appelle Santu Matthias Rouvali. Et je peux dire, je le dis sincèrement, que ce jeune chef d'orchestre est absolument génial. Voilà. Donc, pour ce concert du dimanche 22, il y avait du John Adams, les Sherman Dance, et il y avait aussi, en première partie, le concerto pour piano et orchestre en ré de Ravel. C'est celui qu'on appelle le concerto pour la main gauche. Et le pianiste, c'était Bertrand Chamaillot. Et j'ai eu la chance de rencontrer Bertrand Chamaillot, qui nous a dit des tas de choses intéressantes sur la musique contemporaine, sur ce concerto pour piano, et comment il envisageait la vie tout bêtement. Donc nous allons écouter Bertrand Chamaillot, et nous écouterons à côté eh bien, quelques enregistrements réalisés par Bertrand Chamaillot il y a peu d'années. À vous Bertrand Chamaillot.
Bonjour.
Bonjour.
Voilà, alors j'ai regardé un peu votre biographie que j'avais déjà fait il y a quelques temps. Et alors j'ai vu comme professeur, vous avez fait quand même assez vaste. J'ai vu comme notable Eisser, Fleischer et Peraya. C'est difficile, alors il y en a d'autres aussi, il y a vos premiers professeurs, etc. C'est difficile de faire plus large comme amplitude, non comme...
Oui, alors Eisser était vraiment mon professeur. Oui, dans le cas des autres, ça n'a pas été mes professeurs du tout.
Les masterclass.
Fleischer, je l'ai vu 3 ou 4 fois en masterclass. Parmi d'autres personnes, je pourrais citer Dimitri Bachkirov avec qui j'ai fait des masterclass. Et Peraya, c'est une relation peut-être un peu plus proche, mais j'ai travaillé quelques fois chez lui. C'était une source d'influence, mais ça n'a pas été mon professeur. J'ai eu vraiment 3 professeurs. Premier professeur au conservatoire de Toulouse, qui était Claudine Villotte. Mon professeur au conservatoire de Paris, qui était Jean-François Eisser. Et une grande professeure qui est décédée maintenant, qui était Maria Curcio à Londres. Ça a été vraiment mes 3 professeurs. Et chacun a eu un rôle très très important dans mon développement. La première, surtout pour aiguiser ma curiosité très au-delà du piano, qui a compris que j'étais pas un enfant très discipliné, mais très boulimique par contre. Eisser, ça a été plutôt la structure quand je suis arrivé à Paris, parce que justement, comme j'étais un peu un chien fou, il a fallu me discipliner. Et Maria Curcio, c'est la personne qui peut-être m'a aidé à révéler un peu plus mon identité, quoi, au moment où j'avais besoin de le faire. Voilà. Donc, mais ça a été tous les trois, je dirais, des pôles. Alors après, d'autres personnes comme Fleischer, etc., ça a été des rencontres plus qui ont apporté leur touche effectivement dans cet édifice. Mais Peraya aussi, effectivement, c'était en plus des gens aussi qui m'ont influencé sans même que je les approche. Enfin, les pianistes que j'ai pu écouter également. Donc, voilà un petit peu comment c'est construit mon adolescence.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire chien fou et boulimique ? C'est-à-dire, vous jouiez tout et n'importe quoi au piano ou autre chose que le piano ?
C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé le piano, déjà, j'étais pas dans une famille de musiciens. Je n'ai pas, avant très longtemps, envisagé d'en faire une profession.
Ah, d'accord.
Je n'y réfléchissais tout simplement même pas. Enfin, et donc, j'allais à l'école normalement, etc. Il y avait un piano à la maison, un piano droit, qui avait appartenu à mon père. Et quand j'ai commencé à prendre des cours de piano, j'ai voulu passer beaucoup de temps sur ce piano, mais curieusement, pas en faisant ce qu'on me disait de faire, c'est-à-dire on me demandait de faire des gammes, de faire des exercices, de travailler certains morceaux. Et très vite, je me suis détourné de ça, qui avait tendance à m'ennuyer. Et j'avais commencé à étudier des partitions qui étaient beaucoup trop difficiles pour moi, à composer de la musique, à improviser beaucoup. J'avais passé beaucoup de temps à essayer d'improviser. Donc je passais beaucoup, beaucoup de temps sur le piano, mais à faire toutes sortes de choses, mais qui n'étaient pas du tout ce qu'on me demandait de faire.
D'accord.
Et donc quand j'arrivais au cours, j'étais toujours assez peu préparé. Mais curieusement, je faisais beaucoup de progrès parce que je faisais des choses à ma façon. Et j'étais doué, je pense. Et donc, au bout d'un moment, ma professeure a compris un petit peu comment je fonctionnais. Et plutôt que d'essayer d'aller contre ça, elle s'est dit que, comme elle voyait que j'étais quand même très doué, que je m'épanouissais, que j'étais passionné par la musique, elle a plutôt essayé d'accompagner ça.
D'accord.
Voilà, d'essayer de le structurer comme elle a pu. Mais ça s'est structuré quand même à un moment donné quand j'ai pris conscience que j'arrivais à un niveau où... tout d'un coup, je pouvais peut-être prétendre à aller un peu plus loin. Et voilà, quand j'avais rencontré Jean-François Eisser, il était venu m'écouter dans un jury, il m'a suggéré de me présenter au Conservatoire de Paris. Et moi, j'étais à milieu. C'était en même temps très flatteur, et en même temps, c'était un peu la douche froide, parce que je me disais, mais Je ne voyais pas déménager à Paris, etc. J'étais ado, etc. Bon, en même temps, c'est à partir de là que j'ai commencé progressivement, et je dirais beaucoup plus à partir du moment où je suis monté sur scène, à me discipliner, quoi, à essayer de
D'accord.
canaliser un petit peu tout ce que j'avais développé de manière intuitive.
Mais la technique devait quand même y être, parce que si, même si vous ne travaillez pas ce qu'on vous disait de travailler, il fallait que les doigts y suivent quand même, non?
Oui, mais je pense que c'était vraiment doué, comme on peut dire. C'est-à-dire que j'avais
D'accord.
compris très naturellement, instinctivement, comment ça fonctionnait.
D'accord.
Et le côté mécanique, j'ai vraiment pas beaucoup travaillé. J'en suis assez fier d'ailleurs, parce que j'ai développé un rapport. Je fais beaucoup de gamme aujourd'hui, par contre, mais d'une manière très différente de côté petit marteau qu'on apprend souvent aux petits, qui est désastreuse. De manière beaucoup plus réfléchie sur comment on produit un son au piano. Voilà.
Donc chez vous, vous avez un piano, vous n'êtes pas, comment dirais-je,
Sans piano, tout ça. Non, non, moi
non.
j'ai un piano à la maison et j'aime ça parce que je n'aime pas trop. Bon, ça c'est chacun fait à sa façon. J'ai des collègues qui n'ont pas de piano à la maison, ce que je trouve très bien aussi. Enfin, c'est ça. Ce qui est important, c'est de savoir comment on se sent bien. Donc, si vous n'avez pas de piano à la maison, moi
Vous sentez pas à l'aise.
moi non, parce que l'idée d'aller travailler quelque part qui n'est pas chez moi. Avec un temps donné, c'est surtout ça, moi, le problème, c'est de dire, voilà, j'ai par exemple un créneau de 17h, 19h pour travailler. Et bon, moi, j'ai tendance à me déconcentrer par moments, et il y a des moments où je suis très concentré, mais c'est très imprévisible chez moi. Donc, j'ai besoin de saisir ces moments-là. Et quand je suis chez moi, bon, c'est très bien, il y a un moment donné où tout d'un coup, ça me prend, il faut absolument que j'aille faire quelque chose au piano, mais juste une demi-heure, hein, peut-être. Et puis après, tout d'un coup, je passe 3 heures d'affilée, mais. Mais je n'arrive pas à savoir quand ça commence et quand ça termine en général. Ça peut être très
D'accord.
court, très long, mais c'est là que je travaille le mieux. Donc c'est quand même mieux. Bon, évidemment, si j'en ai pas, quand je suis en tournée, je fais avec les horaires qu'on me donne. Mais souvent, je sais que je demande à mes agents d'avoir les plages les plus larges possibles et d'avoir si possible des clés. Je ne demande pas à avoir forcément un piano très bon. Ça peut être un petit piano droit un peu déglingué quand je suis en tournée. Mais le confort pour moi, c'est d'avoir la possibilité d'avoir accès toute la journée à un lieu. Et quand je suis fatigué, que je n'ai pas envie, je vais aller me promener. Et quand j'ai envie d'aller travailler, je vais travailler.
D'accord.
Et je fais toujours le travail à la fin, vraiment plus que ce qu'il n'en faut. Mais j'aime bien ne pas répondre à un calendrier, enfin un agenda trop strict.
D'accord. Alors je ne sais pas si vos compositeurs de prédilection sont ceux que vous avez le plus enregistrés, j'ai envie de dire Liszt, Ravel, et puis bon, on peut aller chercher un autre, Debussy. Est-ce que vous avez d'autres compositeurs qui vous enthousiasment? Et est-ce que ces trois que je viens de citer, là, c'est vos professeurs ou c'est Jean-François qui vous a permis de les aborder plus?
Oui et non, c'est-à-dire que non, j'ai beaucoup beaucoup de choses que je n'ai pas abordées au disque. C'est-à-dire que moi, j'ai fait beaucoup de musique romantique, par exemple, au disque. C'était
Si vous
pas.
avez fait un disque de musique romantique, non?
Oh, j'en ai fait plusieurs. Non, non. Je veux dire, justement,
Qui a
j'ai
le
fait
titre
majorité.
musique romantique ou quelque chose comme ça?
J'ai fait majoritairement des albums de musique romantique.
Oui.
César Franck,
Oui.
Mendelssohn, Franz Liszt
Absolument.
particulièrement. Et curieusement, c'était pas du tout ce à quoi je me destinais parce que moi, je suis. Au départ, j'étais plus axé, comme je voulais composer autour de la musique contemporaine.
Et vous composez plus là?
Non, j'ai plus jamais composé, mais par contre, là, je travaille beaucoup avec des compositeurs
Oui, j'ai vu
maintenant.
R5, Connaissant, et puis.
Non, ça, c'est. Non,
Non, c'est fini.
non,
BFA aussi,
j'ai.
peut-être un peu,
Non,
non? Non plus?
je travaille plus. Là, cette année, j'ai travaillé beaucoup avec. Ça, c'est des choses de Wikipédia, je crois.
Oui, c'est faux. Oui, c'est ce que
Ouais.
je regardais, d'accord.
Non, non, cette année j'ai passé des commandes à Michael Jarel, Wolfgang Riem, enfin des gens comme ça.
Ah, d'accord.
J'ai en tout cas le désir de travailler avec des compositeurs d'aujourd'hui. C'est-à-dire que pour moi c'est très très important, c'est que la création soit un peu plus au cœur de mon activité. Parce que je crois que c'est un peu un problème aujourd'hui de ne pas du tout faire connaître aux gens une musique. Après, je dirais 1910, quasiment dans la conscience collective, si je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a des musiques qui sont jouées, mais c'est toujours presque un petit peu en s'excusant. Je crois que le problème, c'est qu'en réalité, on a un petit peu en retard parce que les interprètes eux-mêmes n'ont pas assez pris la responsabilité de
Possible, oui.
faire rentrer un petit peu plus. On ne peut pas reprocher aux gens d'être réticents à certaines choses, mais il faut d'une certaine manière qu'on prenne le temps de faire beaucoup plus rentrer dans la, ce que je dis, dans la conscience collective. Quoi. C'est-à-dire donc, comme l'art contemporain pictural est beaucoup plus rentré maintenant dans les mœurs qu'il y a 30 ou 40 ans. C'est possible. Alors, ça ne veut pas dire que les gens vont tout aimer, mais au moins qu'on ait beaucoup plus cette proposition. Parce que je crois qu'aujourd'hui, sinon, le récital de piano devient une sorte de décadence du 19e siècle. Et c'est très bien, mais en même temps, il faut qu'on puisse renouveler un petit peu le répertoire. Donc moi, c'est très important. Je suis très impliqué là-dedans. J'ai beaucoup, beaucoup d'auteurs du 20e siècle que je n'ai pas encore enregistrés. Qui sont très importants pour moi. Les autres auteurs que vous citez sont aussi très importants, mais c'est-à-dire que pour l'instant, ma discographie représente peut-être 10% de mon activité réelle.
D'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a nuance entre faire composer des œuvres pour vous, vous avez parlé de rimes ou des choses comme ça, et puis il y a par exemple jouer du Ligeti, ou jouer du Boulez, ou jouer de...
Oui, voilà. Mais j'en joue aussi. Hein. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, il y a plusieurs choses importantes, c'est créer du répertoire. On n'a pas la certitude que ce sera bien, parce que c'est avec la création. Et puis après, défendre le répertoire qu'on aime vraiment. C'est-à-dire donc le répertoire, pour moi, très récent également. C'est-à-dire des choses qui ont été créées peut-être par d'autres il y a 2-3 ans, mais de ne pas hésiter à les reprendre quand elles sont bonnes. Jouer le répertoire des 50 dernières années, jouer le répertoire du dernier centenaire qui est assez méconnu dans l'ensemble, à part 2-3 auteurs, mais enfin même, je dirais, Stravinsky, à part Le Sac du Printemps, Petrouchka et L'Oiseau de Feu, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas et qui sont vraiment formidables. Bartok, c'est comme pas encore évident pour beaucoup de gens. Enfin, il faut... Donc, on a un travail à faire pour accompagner aussi les gens vers ça. Ce sont des choses absolument magnifiques.
Ou Scriabine, qui est fortement rejeté.
Scriabine, moi, je.
Il y a les Russes qui le jouent, puis bon.
Quand je propose Scriabine, qui est un de mes auteurs fétiches, on me dit, oh là là, mais ça vend pas de billets, ou ça vend pas de disques, etc. Eh bien, je pense qu'on est responsable d'être arrivé face à une telle situation, et qu'il va falloir essayer de travailler pour sans agressivité, parce que moi, mon but, c'est pas de snober les gens, ou de leur dire, je joue de musique, vous n'y comprenez rien, c'est pas du tout ça, mais c'est d'essayer de défendre ces choses-là qu'on trouve merveilleuses, et d'essayer de faire en sorte que le plus de gens possible puissent avoir accès à ça, et puissent de plus en plus trouver ça merveilleux.
D'accord.
Il va falloir du temps pour que ça repasse, mais Moi, je suis plus axé sur ça que sur vraiment essayer de jouer des œuvres parfois un peu inconsistantes du XVIIIe siècle, au nom du fait que ce seraient des raretés. Moi, je vais puiser dans tout le répertoire. Récemment, j'ai enregistré un disque Saint-Saëns et j'ai
Mais il
deux
revient à la mode,
concertos.
il revient beaucoup à la mode, Saint-Saëns. Hein.
Mais Saint-Saëns, c'est un formidable compositeur.
Ouais.
Mais c'est pareil, il faut trier quand même dans son œuvre. Il y a des
Bien
choses qui
sûr.
sont plus ou moins bien. Et quand on joue vraiment les chefs-d'œuvre, eh bien, c'est un compositeur absolument magnifique. Donc j'ai mon prochain disque qui sera dédié à Saint-Saëns. Il y a deux grands concertos qui sont assez relativement fréquemment joués, le deuxième et le cinquième.
Voilà.
Mais il y a une demi-heure de pièces pour piano seul avec sept pièces qui sont totalement inconnus et que personnellement j'ai cherché dans un corpus énorme, il y a 8 heures de musique pour piano seul, plein de choses qui sont rébarbatives, mais je pense que les pièces que je joue, en tout cas à mon goût, elles sont absolument
C'est un
merveilleuses.
sacré technicien en plus, hein.
Ah oui,
Ouais.
à tout niveau, c'était puis un très grand pianiste, un très grand
Absolument, oui.
organiste, c'était un très très grand musicien. Et
Le seul inconvénient, je crois, c'est qu'il est mort trop vieux, quoi. En fait, c'est ça.
il a produit jusqu'à la fin des choses
Oui, jusqu'à la
formidables.
fin, ouais.
Et donc voilà, après jouer tout Saint-Saëns, non, il y a des choses, honnêtement, je préfère me
Comme
limiter
enregistrer tout Liszt, c'est pareil, la même idée.
tout Liszt. Liszt, il y a beaucoup, beaucoup de choses formidables, mais bon, Liszt a laissé beaucoup de choses, des sortes d'esquisses, enfin, il y a beaucoup de choses, des œuvres qui existent en plusieurs versions. Je pense que tout jouer absolument tout, sans faire le devoir, n'est pas forcément le meilleur service à lui
D'accord.
rendre.
Mais comment faites-vous quand vous cherchez un compositeur contemporain ou c'est le hasard ou comment faites-vous? Parce qu'il faut trouver la partition, qui a composé quoi, etc. Comment
Alors, moi,
faites-vous?
je me tiens beaucoup au courant de ce qui se fait. Je vais à des concerts, j'écoute beaucoup de choses. Voilà, et puis j'agis au coup de cœur. Hein. Enfin, voilà, j'ai même pas vraiment d'école particulière, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup aujourd'hui de
Oui, ça,
diversité
absolument.
de langage. C'est même pas, d'ailleurs, il y a des querelles de chapelle qui se font soi-disant entre deux écoles. On me dit, enfin, c'est totalement faux. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui presque autant de sensibilités que de compositeurs. Alors, il y a des gens qui se retrouvent un peu autour de certaines esthétiques, mais on ne peut pas vraiment très clairement découper les choses de façon manichéenne,
D'accord.
comme c'est fait par certaines.
C'est-à-dire qu'il y a eu une telle. Il y a eu quand même dans les années 50-80, on dira quand même une grosse. Monsieur Boulez qui faisait régner une sacrée terreur sur la musique.
Oui,
Mais
mais
puis
c'est
maintenant,
presque.
c'est passé
Moi
outre.
qui ai bien connu Pierre Boulez, enfin, à mon sens, c'est presque une polémique légèrement exagérée, c'est-à-dire que Boulez a défendu certaines de ses convictions.
Oui.
Bon,
Avec
et
violence,
on est
des
avec une
fois.
certaine violence, parce que c'était une sorte de tempérament révolutionnaire. Et bon, moi je trouve malgré tout le cas Boulez passionnant, vraiment. En plus, je pense que c'est un grand compositeur. Mais bon, effectivement, le fait qu'il est un peu écrasé par son charisme et sa puissance, beaucoup de choses. Mais je crois quand même que ça n'a pas empêché certaines choses
Absolument.
d'exister. Et d'ailleurs, lui-même a invité, contrairement à ce que les gens disent, parce qu'il y a beaucoup de révisionnisme par rapport à ça,
Bien
quand il a
sûr.
créé l'ensemble intercontemporain IRCAM, il a invité beaucoup de gens qu'il n'aimait pas,
Absolument.
qu'il considérait intéressants. Mais les Spectros, par exemple, comme Tristan Murail ou des gens comme ça, c'était des gens qui ne. Enfin, lui, c'était pas sa musique du tout. Et il a même fait jouer de la musique minimaliste américaine à l'ensemble
De Adam, c'était,
intercontemporain.
je crois.
Adams, également
Steve
Steve
Reich,
Reich,
peut-être. Oui.
c'était pas son truc, hein,
Ah
je veux dire.
non, c'est
Bon,
sûr que non.
c'était pas du tout son truc, mais il l'a quand même accepté. Donc, alors après, je dis pas que ça n'a pas été quelqu'un qui est un peu. Mais l'histoire qui blacklist et tout, enfin, je pense que c'est un peu exagéré. Et puis, par ailleurs, je pense que beaucoup de gens ont pu écrire leur musique. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des sensibilités très très
Absolument.
différentes. Mais même de son temps, bon, il y a eu un moment donné où il y a une emprise très forte en Europe, particulièrement de ce qu'on appelait Darmstadt, avec plein. Mais c'était quand même des compositeurs qui étaient déjà très différents les uns des
Tout à
autres.
fait,
Moi,
tout
je
à
trouve que
fait.
c'est un peu réducteur aussi de certaines personnes qui disent qu'ils ont été empêchés par ces gens-là de dire que tous ces gens-là étaient dans le même panier. C'est quand même des gens qui ont des sensibilités aussi très différentes. Boulez n'aimait pas du tout Nono, par exemple, enfin, des choses comme ça. Alors, c'est pas le même genre de musique, hein. Mais il y a effectivement, bon, il y a eu effectivement, il y a eu de tout, hein. C'était bon, il y a un peu dans l'art des combats esthétiques, hein, qui se
Et les
font.
sonates de Boulez, vous les avez attaquées?
Non, j'ai pas joué les sonates de Boulez. Moi, j'ai joué des œuvres plus récentes qu'il a écrites pour le piano,
D'accord,
notamment une
d'accord.
œuvre qui s'appelle Incise. J'ai joué la grande version qui s'appelle Sur Incise pour trois pianos, trois percussions et trois harpes. On l'avait fait d'ailleurs à Montpellier il y a quelques années.
Oui, je me rappelle, oui.
Mais voilà. Enfin, moi j'aime beaucoup ce compositeur. Oui.
D'accord.
Moi, j'ai connu le personnage, mais c'est vrai que c'était un personnage qui prenait beaucoup de place. Et on
Il
peut
était
comprendre
fort,
pourquoi,
ouais.
parce qu'il était très fort. Mais voilà, effectivement, peut-être qu'à un moment donné, il y a eu des personnalités qui ont été un peu intimidées par
D'accord.
lui et puis par son omniprésence sur la scène politique aussi.
D'accord.
Mais bon, là, aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup de sensibilités différentes et que bon, c'est très bien qu'il y ait des combats esthétiques, mais après, je trouve qu'il ne faut pas le résumer à un débat manichéen. Voilà.
D'accord. Alors si on regarde le concert de ce soir, donc à côté du John Adams, à côté du Stravinsky, donc il y a le concerto pour la main gauche de Ravel. Alors, je vous pose une question. Est-ce que vous avez regardé toutes les œuvres que Wittgenstein, pardon, a provoquées chez Prokofiev, Britten et d'autres? Est-ce que ça vous a intéressé ou
Ah
pas?
oui,
Justement, il y a Fleischer là au milieu, ça tombe bien.
oui, j'ai connu pas mal, je connais pas mal le répertoire. Il a fait composer 17
C'est ça, oui,
concertos au piano quand même, Wittgenstein.
il en a joué très peu, en fait, hein.
Oui, mais en fait, c'était un homme qui ne s'intéressait pas vraiment à ça. Enfin,
Oui,
il
c'est
l'a fait
ça.
parce qu'il y avait beaucoup d'argent. Il a cherché une solution. Alors, je dois dire que c'était génial en fait qu'il ait pu faire ça, mais le personnage lui-même est assez décevant. Et
Pourtant, il avait un frère qui était quand même quelqu'un de connu,
ah
hein.
ben oui, bien sûr, le philosophe. Mais lui-même, je dirais, d'ailleurs, apparemment, n'était pas un pianiste génial à la
Ouais.
base. Bon, effectivement, a suscité ses créations, mais dans le fond, je crois que c'était un homme du 19e siècle. Enfin,
Absolument,
il
oui.
avait beaucoup de mal à supporter ses œuvres modernes. Oui, d'ailleurs, il les a arrangés un peu à sa façon. Enfin, quand il jouait le concerto pour la main gauche de Ravel, je crois que c'était.
Il a rangé un peu une version rage.
Ah oh, oui, il faisait un peu tout et n'importe quoi.
Chez le
Ravel
Prokofiev, il a jamais
était.
joué, si je me rappelle
Non, il n'a pas
bien.
joué le Prokofiev. Je crois pas qu'il ait joué une demi. Peut-être, je sais
Je
plus.
sais pas, le
Alors,
Cornwall, je
parce
suis
qu'il a
pas
mis
sûr non plus.
des.
Enfin
Il a
bref,
mis des exclusivités dessus alors qu'il ne les jouait pas. Enfin
voilà,
bon,
c'est ça.
oui. Personnage très particulier. Mais en tout cas, il a fait écrire des œuvres très belles parce qu'il y a des choses très bien de Britten également. Il y a deux pièces de Richard Strauss qui sont vraiment intéressantes aussi. Moins connu, bon, le Ravel est peut-être le plus immédiatement frappant, enfin le plus évidemment chef-d'œuvre, hein, on va dire. Mais non, tout le reste du répertoire est globalement très beau. Hein. Enfin, le Korngold, c'est très très bien, le
Oui,
concerto
c'est
de
une
Korngold
très
aussi.
belle heure.
Ah oui.
Bon, c'est post-romantique, mais enfin, ça fout, c'est des
Ah,
belles
j'aime
choses de
beaucoup
Prokofiev.
Korngold, hein,
Oui.
ouais.
Ah oui, sa symphonie, il y a des choses extraordinaires.
C'est merveilleux.
Ouais. Et donc, alors, comment vous le sentez, ce concerto pour la main gauche? Vous ne
Moi,
l'avez
ce
pas
qui.
enregistré? J'ai
Je ne l'ai pas
peut-être
enregistré,
envie.
non, j'aimerais bien le
Voilà.
faire. Concerto en sol avec aussi. Moi, je joue beaucoup les deux. Ben, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le fait qu'ils aient été composés en même temps et que l'un est un peu l'antithèse de l'autre. Et le sol, concerto en sol pour demain, donc quelque chose d'un objet très lumineux et presque une sorte de divertissement.
Avec un mouvement
Un
lent,
mouvement lent, vraiment céleste. Mais le concerto pour la main gauche, c'est son frère jumeau, beaucoup plus sombre, théâtral, dramatique, cynique presque.
Ah, cynique, vous irez jusque-là.
Par moment, oui. Je veux dire,
Ouais.
toute cette espèce de jazz qui dégénère au bout d'un moment, ça me rappelle un peu le Ravel aussi de la valse, enfin, avec toujours aussi ce processus un peu de destruction qu'il y a dans le boléro, hein, également. Enfin, il y a un côté presque un peu destructeur. Et je crois que là, en plus, l'histoire elle-même du concerto par rapport à cette histoire de mutilation, etc., fait qu'il y a quelque chose d'assez sombre. Aussi, le déclin de Ravel lui-même, hein, qu'écrivant ses pièces, enfin, commençait à avoir des problèmes. Il a quasiment plus rien écrit après,
Oui, c'est ça.
à part les chansons de Don Quichotte halluciné. Donc, il y a quelque chose de très sombre, l'engloutissement progressif du piano par l'orchestre, hein, qui ne peut pas lutter avec ses seuls 5 doigts. L'inconfort, évidemment, de jouer à une seule main.
Oui,
Et
justement,
je veux dire qu'il
la
traite.
technique, elle est très particulière pour ce concerto.
Ah oui, c'est particulier d'être avec une seule main. C'est totalement déséquilibré.
Oui, on a peut-être envie, des fois à la droite, envie de démarrer, non?
C'est surtout le. Oui. C'est surtout, bon, quand on a travaillé comme ça, en fait, on joue avec sa main gauche, mais c'est surtout la sensation physique où on a envie de se rééquilibrer tout le temps, parce qu'on sent qu'on.
Qu'est-ce qu'on se sent décalé, quoi.
On sent un manque d'appui, quoi, en fait.
Ah ouais.
Ouais, donc on est un
C'est ce qui
peu.
fait qu'il est difficile.
Ah oui, bien sûr.
Parce que techniquement, je veux dire, la main gauche de ce concerto, enfin, la main de ce piano, n'est pas plus difficile que chacune des deux mains du concerto en sol, par exemple, si.
Voici,
Ah
beaucoup
si?
plus. Ouais.
Ah ouais.
Concerto en sol, il est assez léger, techniquement
Oui.
pas très difficile.
Ah d'accord.
Non, celui-là, si, parce qu'il essaye en plus d'imiter le jeu de deux mains
Oui,
ensemble.
c'est ça, il faut sauter constamment
Il
d'un
faut
côté à
sauter
l'autre.
constamment. Non, c'est quand même difficile. Et puis, bon, on se sent parfois en défaut de puissance aussi à une seule main.
D'accord. Et les pédales ne remplacent pas tout.
Non, mais on peut. Moi, en plus, il y a tout un jeu. Moi, je me décale beaucoup sur la banquette. Je mets la pédale forte avec le pied gauche souvent. Enfin,
D'accord.
j'alterne.
Chacun a sa technique.
Voilà. Mais c'est non, c'est il y a une forme d'inconfort, mais qui est voulue dans la partition. C'est pour ça, moi, quand il y a
c'est
des gens
comme
qui
ça
me
que
disent
vous le sentez.
pourquoi ne pas le jouer à deux mains. J'ai déjà entendu ça.
Ah ouais.
Il y a des gens qui disent bon, après tout, si on a deux mains, pourquoi pas le jouer à deux mains? Ça se déforme, mais alors là, on va le rendre trop confortable, ce concerto.
D'accord,
Ça, son
d'accord.
expression, sa puissance expressive se dégage de son
Parce
inconfort.
que quand lui il a composé Ravel, il a vraiment composé, je veux dire, avec sa seule main gauche. A
Oui,
priori,
mais
il y a pas de
il a essayé
particelle ou de.
de réfléchir comment faire avec une seule main pour donner l'impression qu'il y en avait deux. C'est écrit
D'accord.
d'ailleurs régulièrement sur deux portées.
Ah même.
Oui.
D'accord.
C'est écrit comme pratiquement une partition à deux mains, mais on doit tout jouer avec la seule main gauche. Oui.
D'accord, ça je savais pas ça,
Oui.
que c'était sur deux portées. C'est étrange comme technique.
Oui, absolument.
Bon, et après Montpellier, vous faites quoi?
Et là, je reste un petit peu en France. Là, j'étais beaucoup à l'étranger. Je vais rester, je fais encore plusieurs festivals, notamment à la Roque d'Enterron et à
Voilà, tous
Menton.
les pianistes que j'ai vus partaient tous à la Roque
Voilà,
d'Enterron.
bon, je vais
Voilà.
à la Roque d'Enterron. Je vais à un festival de Menton également.
Ouais.
Voilà, après quelques concerts à l'étranger, en Norvège et en Italie, avant de prendre quelques vacances.
Ah bon, ça
Et
vous
de
arrive?
retrouver le Philharmonique de Radio France à la rentrée en Allemagne pour une tournée.
Et
Voilà.
ce sera quoi?
On fera le concerto égyptien de Saint-Saëns.
D'accord,
Voilà.
d'accord. C'est une œuvre absolument extraordinaire, je trouve.
Ah oui, absolument. Oui.
On voit là. Chaque fois, moi, j'imagine presque la Zmana d'Abdelkader qui arrive par endroit.
C'est
Ça ressemble complètement à ça. C'est assez hallucinant comme moment.
totalement hallucinant. Oui,
Ouais.
ouais.
Il doit pas être facile, celui-là non plus, non?
Non, c'est pas facile.
Ouais.
Ouais,
Vous le
c'est
jouez
pas...
souvent, en fait?
Oui.
Ouais.
Donc il y a le disque qui va
Ouais,
sortir là, le
d'accord.
7 septembre.
D'accord. Et qu'est-ce qu'il y aura comme autre disque enregistré? Il y en a d'autres?
Non, pas encore.
Pas encore?
On verra pour l'année prochaine. Il
Ouais, c'est comme
faut
ça.
déjà que je les enregistre. Voilà.
D'accord. Bon, ben, Bertrand Chamaillou, je vous remercie. Je vous
Merci
dis
à vous.
peut-être à l'année prochaine. Hein.
Avec grand plaisir.
Voilà, vous venez donc d'écouter Monsieur Bertrand Chamaillou qui jouait ce concerto pour la main gauche de Maurice Ravel. Vous avez entendu comme petit intermède musical, extrait du deuxième cahier de pèlerinage de Francis, le chant de Salvador Rosa. Et vous entendrez tout à l'heure, eh bien un extrait de Ondine qui est un morceau de Gaspard de la Nuit du même Ravel. Alors si vous voulez vous y retrouver un peu, eh bien aujourd'hui mercredi vous avez tout un tas de choses du côté de la salle Einstein, de la salle Pasteur. Ensuite vous aurez le soir, mercredi soir, eh bien les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Donc ça se passe à la cathédrale de Saint-Pierre, c'est à 20h. Et vous aurez également jeudi, mais nous aurons l'occasion d'en reparler, les Cris de Paris, l'orchestre de Montpellier, l'orchestre d'harmonie de la garde républicaine, dirigé par Hervé Nickel. Et on entendra quelque chose d'extraordinaire, c'est les Cris de Paris, la grande symphonie humoristique de Georges Kastner. Et il paraît que ça décoiffe, mais entre-temps, nous aurons écouté Monsieur Hervé Niquet au micro de BR Radio FM+, Radio FM+, qui vient de diffuser la 7e émission autour du festival, et nous nous retrouverons la prochaine fois pour la 8e et dernière. Je remercie notre technicien à la barbe foisonnante, et Stéphane, et je vous dis à bientôt. Bye bye!